Alors, bon, mais je me suis un peu présentée déjà dans le fond. J'ai déjà un petit peu commencé à introduire l'atelier. Donc, on va parler de façon d'enseigner la création aux enfants. Mon but aujourd'hui, c'est de vous présenter un plan d'action et des ressources pour vous donner confiance dans vos capacités d'enseigner vos enfants, de leur donner un bon enseignement créationniste à partir de très jeunes, mais aussi d'en faire un enseignement perpétuel, parce que vous voulez surtout, vous voulez commencer tôt l'enseignement créationniste, mais vous voulez éviter d'oublier ce sujet-là et que vos adolescents, vos jeunes adultes aient l'impression à un moment donné que le récit de la création, c'est une espèce de petite comptine de la petite enfance qu'on a apprise à un moment donné à l'école du dimanche ou avec papa et maman à 5-6 ans et qu'ensuite on est passé à autre chose. C'est pas le désir de Dieu. Dans sa parole, lui, il nous rappelle constamment la création et on devrait faire de même avec nos enfants. Et il y a plein de façons d'approfondir avec les plus grands aussi. Alors, on va voir un peu tout ça. Mon nom est Julie. Je vous ai déjà dit que j'étais membre de l'Association de sciences créationnistes depuis un peu plus de 10 ans, depuis ma conversion en fait. Le créationnisme m'a joué un grand rôle dans ma conversion. Bonjour. Pas de problème. En parallèle avec mon implication dans l'Association de sciences créationnistes, je vais parler un petit peu plus tard d'ailleurs, mais là, je pense qu'il y a pas mal de gens qui connaissent l'association, mais je vais quand même en parler un petit peu plus tard parce que c'est vraiment une bonne ressource qu'on a au Québec. En parallèle avec mon implication dans cette association-là, j'ai fait des études en littérature. J'ai un baccalauréat et une maîtrise en littérature de langue française de l'Université de Montréal. J'ai enseigné la littérature. Ah oui, toi aussi. Félicitations. Juste le bac. C'est déjà quelque chose, le bac. La maîtrise, ça demande encore plus de persévérance, mais ça a valu la peine. J'ai enseigné la littérature et la grammaire française dans quelques cégeps. Et ensuite, j'ai entamé la carrière ultime, c'est-à-dire que je suis devenue mère au foyer. Comme je mentionnais tout à l'heure, j'ai 4 enfants âgés de 3 à 6 ans. On est donc au tout début de notre expérience d'école maison, mais on a déjà eu l'occasion de répondre à beaucoup, beaucoup, beaucoup de questions. Et je voudrais commencer, avant de vous présenter mon plan d'action, je voudrais répondre à la question que mes enfants me posent le plus souvent dans une journée, et c'est pourquoi? Pourquoi enseigner la création? Pourquoi est-ce que c'est important? Il faut qu'on ait une réponse à cette question-là si on veut garder notre motivation, si on veut persévérer. La position créationniste n'est pas facile à tenir. On est dans une société où la théorie de l'évolution nous est présentée comme un fait, bien qu'elle soit en fait une théorie qui a été élaborée et popularisée il y a environ 200 ans pour des motifs principalement religieux. Quand on lit les écrits de Darwin, de Lyell, on est constamment confronté à ce désir de se débarrasser de la Bible, à ce désir de se débarrasser de Dieu. C'était la raison principale pour laquelle des scientifiques ou philosophes ou théologiens ont élaboré la théorie de l'évolution. Et c'est pas étonnant, c'était prédit déjà dans la Bible, en 2 Pierre 3, versets 3 à 6, il est écrit que dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec leur raillerie, marchant selon leurs propres convoitises et disant « Où est la promesse de son avènement? Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. Ils veulent ignorer, en effet, que des cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu, de même qu'une terre tirée de l'eau est formée au moyen de l'eau, et que par ces choses, le monde d'alors périt, submergé par l'eau. » Donc, la création en 6 jours et le déluge, ce sont les principales victimes de la théorie de l'évolution. En 2014, les moqueurs sont nombreux. Et ils s'accrochent à leur théorie de l'évolution, même si les découvertes scientifiques des 200 dernières années ont souvent démenti la majorité de leurs hypothèses, mais ils s'accrochent encore à leur théorie. Et la raison pour laquelle ils y tiennent tant, c'est justement la raison pour laquelle on devrait s'accrocher au récit de la création que Dieu nous donne dans sa parole. C'est parce que quand on parle d'évolution ou de création, on parle de nos origines, on parle de notre identité, on définit ce que ça signifie que d'être un être humain, ce que ça implique comme responsabilité et comme droit envers Dieu, envers les autres êtres humains et envers le reste de la création, envers le reste du monde qui nous entoure. Autrement dit, si j'ai la position créationniste, si je crois que tous les êtres humains sont descendants d'un même homme, Adam, créé par Dieu à son image, logiquement, je devrais croire que le bien et le mal sont des absolus, bonjour, des absolus qui sont posés par Dieu et que c'est Dieu qui établit les règles. Par contre, l'évolutionniste matérialiste, là, je sais qu'il y a des évolutionnistes théistes aussi, présentement, on va en parler un peu plus tard, présentement, on parle d'évolutionnistes matérialistes qui croient que la race humaine descend de la race primate, qu'elle a évolué à partir de la race primate, sans aucune intervention extérieure, sans aucune intervention divine. Logiquement, cet évolutionniste matérialiste devrait croire que c'est l'homme qui établit les règles, ce qui nous mène à une moralité relative qui change d'une génération à l'autre, avec aucun fondement commun. Et c'est ce qui explique pourquoi on a tant de difficultés à en venir à un consensus dans les grands débats de société présentement, même à l'intérieur de la communauté évolutionniste, de la communauté athée. Donc, si vous voulez une bonne façon d'aider vos enfants à avoir une foi chrétienne cohérente et une vie qui est cohérente avec cette foi-là, c'est de leur offrir un bon enseignement créationniste. Une autre raison pour laquelle c'est important d'enseigner à nos enfants des bons arguments créationnistes, de leur donner une bonne base, un bon fondement, c'est parce que le créationnisme est une bonne façon de défendre notre foi. Quand nos enfants vont arriver au cégep, à l'université, qui vont être confrontés à des cours de philosophie, de littérature, des cours de sciences, où on va leur présenter la théorie de l'évolution comme un fait, où on va leur présenter des philosophies qui balaient Dieu, qui balaient la Bible du revers de la main. Nos enfants, s'ils ont des bons arguments, un bon fondement créationniste, s'ils connaissent bien leur Bible, s'ils connaissent bien les empreintes de la création de Dieu qu'on voit dans le monde qui nous entoure, vont avoir des bons arguments pour défendre leur foi, vont être solides dans leur foi aussi, vont être moins ébranlés par toutes ces attaques évolutionnistes-là. Et je peux vous dire, pour avoir enseigné dans les cégeps, qu'un étudiant qui prend parole dans un cours de littérature, de philosophie, de sciences, de façon polie, de façon respectueuse, mais de façon assurée aussi, avec une bonne foi dans sa parole, ça impressionne les autres étudiants et ça impressionne les professeurs aussi souvent, même si l'étudiant a une opinion complètement contraire à lui, surtout s'il est capable de bien articuler cette opinion-là. Donc, encore là, un bon service qu'on offre à nos enfants en leur donnant un bon fondement créationniste. J'arrive à mon plan d'action, tel que promis. C'est un plan en deux étapes. Ce ne sont pas des étapes chronologiques. Ce sont deux aspects du créationnisme, dans le fond, que vous voulez approfondir en même temps avec vos enfants. Je n'ai pas d'inquiétude, on est des parents-enseignants, on est capable de faire plusieurs choses en même temps. Donc, vous voulez voir avec votre enfant ce que la Bible nous dit de la création et ce que la science, ce que l'étude du monde qui nous entoure dit de la création aussi. Alors, sans plus tarder, on va commencer avec la Bible. Je vais vous donner quelques moyens concrets pour aider vos enfants à développer une bonne connaissance de la Bible et du récit de la création divine qui s'y trouve. Donc, premièrement, leur lire des passages de la Bible, leur parler de la Bible le plus tôt possible. C'est simple, n'est-ce pas? Les enfants commencent leur apprentissage du langage in utero, avant même d'être nés. Vous avez sûrement déjà entendu que un bébé peut reconnaître la voix de sa mère à la naissance. Non seulement il peut la reconnaître, mais il y a des études avec des encéphalogrammes qui ont démontré que la voix de la mère a un impact différent sur le cerveau du nouveau-né que les autres voix. Elle va stimuler plus la préparation à la prononciation. Donc l'enfant, dès qu'il naît et même probablement un peu avant, se prépare déjà, quand il entend des mots, quand il entend des sonorités, à prononcer. Ça va prendre du temps avant qu'il réussisse, mais c'est déjà un processus qui est entamé. Il est déjà en train d'emmagasiner des sonorités, des mots, des concepts dans sa mémoire. Donc, c'est un bon service que vous lui rendez que de lui donner du matériel langagier de qualité et qu'est-ce qui pourrait être plus de qualité que la Bible. Donc, vous pouvez soit tout simplement lui parler quand vous jouez avec ses petits doigts, par exemple, lui dire est-ce que c'est Dieu qui a créé tes doigts, c'est Dieu qui a créé tes pieds. Vous pouvez même lui lire déjà des passages de la Bible en le berçant, etc. Dès qu'il commence à s'intéresser à ce qui l'entoure, vous pouvez utiliser des petites bibles cartonnées, illustrées, texturées pour aller chercher son attention. Ici, c'est un... C'est bon, c'est ça. J'ai trouvé ça au CLC. C'est un petit livre. Ben là, ici, c'est à partir de 3 ans parce qu'il y a des petits morceaux de sirop-mousse que vous voulez pas qu'ils avalent. Mais vous avez un petit résumé des 6 jours de création, puis ensuite l'enfant apprend à compter les éléments de la création de Dieu. Donc tout ce matériel-là peut servir à aller chercher l'intérêt de l'enfant, à rendre les choses un peu plus concrètes. Par contre, quand vous utilisez ce matériel-là, c'est bon de tout de suite commencer à développer l'esprit critique de votre enfant en lui faisant comprendre que la source ultime, c'est l'exemplaire de la Bible complet et non le petit récit biblique qui, lui, peut être sujet à des interprétations. C'est des résumés des histoires de la Bible. Des fois, en général, la création est bien présentée, mais des fois, quand on arrive au déluge, on a Noé sur son petit bateau qui fait bye-bye aux gens qui se noient autour, là. Bon, évidemment, on ne voit pas les gens qui se noient autour. Alors, c'est bon d'aller retourner dans la Bible, d'expliquer aux enfants les différences, les interprétations. Exactement, exactement, exactement. D'ailleurs, je vous recommande fortement de ne pas raconter des histoires fausses à vos enfants. Moi, j'explique à mes enfants dès la naissance que le Père Noël, c'est tout simplement un homme qui se déguise, justement parce que il y a beaucoup de gens qui mentent. Puis quand on fait croire aux enfants que les adultes disent toujours la vérité, qu'ils apprennent à 8 ans, 10 ans, 12 ans, que les adultes mentent des fois, ça les dégoûte un peu. C'est très décevant. Donc, moi, j'essaie d'être honnête avec mes enfants dès le départ. Et dès le départ, j'ai dû leur dire assez jeune qu'il y a des gens qui connaissent le Seigneur, il y a des gens qui connaissent pas le Seigneur. Les grands-parents, malheureusement, chez nous, je suis pas de famille chrétienne, donc mes parents sont pas chrétiens. On explique à nos enfants que tel truc est mal, tel truc est bien. Puis les grands-parents arrivent avec des trucs qui sont mal, où on leur explique qu'il faut être marié pour avoir des enfants. Les grands-parents sont tous divorcés. Donc là, comment ça, grand-maman, grand-papa sont pas ensemble, ils ont eu des enfants. Alors, très tôt, j'ai dû expliquer à mes enfants, il y a des gens qui connaissent le Seigneur, il y a des gens qui connaissent pas le Seigneur, il y a des adultes qui sont dans l'erreur. On leur parle de Dieu, on prie pour eux, mais on fait pas comme eux. Et c'est la même chose avec la théorie de l'évolution. Très tôt, j'ai expliqué à mes enfants, c'est sûr qu'on va à la bibliothèque, on veut faire des sciences, on a toujours la théorie évolutionniste, au moins dans les premières pages, pour essayer de nous expliquer l'origine du vêtement, l'origine de la nourriture, l'origine de l'agriculture, l'origine de n'importe quoi. On parle toujours de millions d'années. Donc, pourquoi est-ce que les gens mentent? Pourquoi est-ce que mon livre est fiable ou est pas fiable? Toujours l'esprit critique. Il y a des choses qui sont vraies dans ton livre, il y a des choses qui ne sont pas. On va aller voir dans la Bible. Hein. Quand on nous parle du premier vêtement, j'aime aller voir. On va aller voir dans la Bible, c'est quoi le vrai premier vêtement? L'agriculture. Qui était le premier vrai agriculteur? C'est écrit dans la Bible. Dieu nous le dit. Mais les gens qui ne veulent pas croire la Bible, par contre, doivent s'inventer une autre histoire. Ils essaient d'expliquer la création sans le créateur. Et les enfants sont capables de comprendre ça assez rapidement. Donc, toujours vérifier les sources. Ça, c'est très bon avec dès le jeune âge, mais quand vos enfants vieillissent aussi, c'est vraiment une activité intéressante à faire, aller vérifier les sources. Disons que vous regardez un film avec vos enfants, disons dans ce genre-là pour les plus petits ou dans ce genre-là pour les plus vieux. Et ensuite, votre activité, on va aller lire dans la Bible, on va trouver les passages dont il était question, on va aller lire le passage, on va discuter de ce qui était semblable, ce qui était différent, ce qui était une interprétation, ce qu'on ne sait pas. Mais des fois, il y a des détails dans le film, c'est juste pas dit dans la Bible, c'est pas nécessairement faux, mais c'est bon de savoir que c'était pas dit. On en a beaucoup autour de la naissance de Jésus, hein, dans les petites Bibles, vous allez voir, Jésus est né dans une étable ou autour des animaux. Il n'y a aucun animal de mentionné dans la Bible. Est-ce qu'il y avait des animaux? Est-ce qu'il n'y en avait pas? Est-ce que c'était vraiment une étable? Est-ce qu'il était vraiment dans une étable? C'est difficile à dire. On sait qu'il était dans une mangeoire. Est-ce que la mangeoire était dans l'étable? Ça peut être sujet à interprétation. Donc, ça peut être bon que l'enfant sache qu'est-ce qui est écrit, qu'est-ce qui ne l'est pas, qu'est-ce qui a été une interprétation? Quand les enfants sont plus vieux, ça peut être intéressant de faire un tableau où il va pouvoir écrire dans une colonne, par exemple, ce qui était une interprétation, ce qui était carrément faux, ce qui était exact. Donc, vraiment, ça, c'est vraiment un bon exercice pour pratiquer l'esprit critique. J'ai parlé de films. C'est bon d'avoir des loisirs qui évoquent la Bible, comme des cahiers à colorier. J'en ai vu plusieurs beaux à la table du CLC, du Centre du livre chrétien, dans le salon des exposants. Celui-là est en anglais, mais il y en a des beaux en français aussi, à la table du CLC. De la musique. Je vous présente celui-ci. J'ai trouvé ça au CLC, mais je pense pas qu'il est à leur table présentement, mais vous pouvez sûrement, au moins le commander en ligne. Sur vos photocopies, ceux qui ont pris les photocopies ou qui vont les prendre, vous avez l'adresse Internet du CLC. Qui a créé le monde? Ce sont des enfants qui chantent, parfois accompagnés d'adultes. La première chanson parle de la création, la deuxième du déluge, puis ensuite on a d'autres passages de la Bible aussi. Ça se rend jusqu'à l'Apocalypse. Très narratif, très biblique. J'ai beaucoup apprécié. Pour les plus vieux, des hymnes tels que Dieu Tout-Puissant. Sont vraiment des belles chansons qui soulignent la toute-puissance de notre Créateur. Dieu Tout-Puissant, il y en a une version de disponible sur Héritage, volume 3, qui est à la table du CLC présentement, si ça vous intéresse. D'avoir des loisirs qui évoquent la Bible, ça nous permet de répondre à l'exhortation qu'on trouve en Philippiens 4:8. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Donc, vous voulez amener vos enfants à penser à la Bible, à la parole de Dieu et aux beautés de la création le plus souvent possible. Ça vous permet aussi, ça vous donne des excuses des fois d'aller relire des passages avec vos enfants. Votre enfant vous arrive avec le beau coloriage qu'il a fait. Sais-tu ce que ça représente? On va aller lire l'histoire si tu t'en rappelles pas. Donc, c'est vraiment intéressant de passer le plus de temps possible à discuter de la Bible, avoir la Bible en tête. Dans la même ligne d'idée aussi, je vous recommande d'utiliser toutes les occasions que vous avez de parler de la Bible avec vos enfants. Exemple, vous jardinez, vous n'avez pas nécessairement une Bible en main, mais vous pouvez leur parler de la parabole du semeur. Toutes les occasions sont bonnes de louer la toute-puissance de Dieu. C'est ce qu'on voit souvent dans les psaumes, hein? Souvent le psalmiste loue Dieu. Les références à la création dans les psaumes vont souvent souligner la toute-puissance de Dieu. Dieu, je te loue parce que tu es le Seigneur, le Créateur Tout-Puissant qui a créé le ciel et la terre. Donc, de la même façon, quand vous étudiez des oiseaux, des plantes, vous faites des sciences avec vos enfants, profitez-en pour louer la grandeur du Créateur. Je recommande aussi de donner aux enfants leur propre exemplaire de la Bible le plus tôt possible. Les petites Bibles cartonnées, c'est pratique quand ils sont à l'étape où ils font des petits confettis de Bible. Il y a mes jumelles de 3 ans qui sont à cette étape-là. Mais mes deux grands de 5 et 6 ans, par contre, je leur ai donné à un moment donné, un peu solennellement, leur premier exemplaire, le vrai exemplaire complet de la Bible. Ils ont pu écrire leur nom dessus. Et là, c'était beau à voir. Ça a vraiment suscité un intérêt. Déjà, ils étaient intéressés à entendre parler de la Bible, mais là, le soir, quand on lit notre passage de la Bible, ils sont vraiment, ils veulent qu'on lise dans leur Bible. Je leur ai expliqué que c'était la même chose dans toutes les Bibles, mais c'est leur Bible. Ils ont commencé à la porter à l'église eux aussi, à vouloir assister aux études bibliques du côté des adultes. Ça vient donner un sentiment d'appartenance aux enfants. Ça leur fait comprendre que la Bible, c'est pour eux aussi, c'est pas juste pour les adultes. Développer une routine de lecture biblique quotidienne en famille et quand les enfants vieillissent et qu'ils deviennent des lecteurs autonomes, c'est vraiment bon de les encourager aussi, en plus du temps de lecture en famille, d'avoir un petit temps de lecture individuel. Ça peut être au début de la journée d'école maison, par exemple, les 15 premières minutes, tu lis un chapitre de la Bible, puis ensuite on va faire ton français ou on va faire tes mathématiques. Pour éviter que quand ils vont voler de leurs propres ailes et qu'il n'y aura plus papa et maman pour dire voilà, c'est le temps de la lecture biblique familiale, qu'ils perdent cette habitude-là. On veut qu'ils aient une habitude de lecture individuelle aussi, dès que c'est possible, évidemment. Les miens ne sont pas rendus là. Lire le récit de la création divine, évidemment, Genèse 1 à 11, mais aussi tous les autres passages qu'il mentionne. Et ça, si vous avez pris les photocopies, vous avez la liste de tous les passages. Ici, vous avez seulement les références du Nouveau Testament parce que sinon, ça ne rentrait pas dans une diapositive. Et là, de toute façon, je sais que vous n'avez pas le temps de noter tout ça en quelques secondes. C'était juste pour vous montrer à quel point ces références sont nombreuses. On sait qu'il y a le débat création-évolution est dans l'Église aussi. Il y a des gens, il y a des chrétiens qui acceptent l'évolution et qui vont dire parfois que Genèse est un mythe. Puis qu'ensuite, la vraie affaire commence. C'est un peu difficile à tenir comme position quand on a autant de références à la création, aux 6 jours de création, au déluge, partout dans le reste de la Bible. Ici, c'est le Nouveau Testament. On en a plus encore dans l'Ancien Testament. C'est intéressant de montrer ça à vos enfants. Il y a des listes de références comme ça en anglais. De disponible sur Internet, il n'y en avait pas en français. Alors, c'est la raison pour laquelle je vous ai fait des photocopies. J'en ai pas fait pour mon atelier en anglais. Je vais juste leur donner ils vont pouvoir noter l'adresse courriel. Vous, je vous ai vraiment fait la liste. Et s'il y en a qui n'ont pas pris les photocopies, vous pourrez les prendre après si vous voulez. Ou si vous ne les voulez pas, parce que vous voulez pas payer le 20 sous puis partir avec des feuilles de papier. On va mettre cette liste-là en ligne sur le site de la SCQ que je vais vous présenter tout à l'heure bientôt. Maintenant que je l'ai faite, on va la mettre en ligne. Ça pourrait prendre quelques semaines, par contre, on est tous très occupés. c'est bon de montrer à vos enfants, si vous avez une liste comme ça, de leur montrer à quel point il y en a des références, puis aller en prendre peut-être au hasard ou peut-être de façon chronologique, comme vous voulez, mais d'aller en lire avec eux, puis discuter de qu'est-ce que ce passage-là nous dit sur la création. Ça fait vraiment des bonnes discussions. Qu'est-ce qu'il nous dit sur nous? Qu'est-ce qu'il nous dit sur Dieu? Qu'est-ce qu'il nous dit sur nos responsabilités, sur le bien et le mal? Et aussi leur montrer à quel point ces références-là sont des bons arguments pour affirmer une création, une interprétation littérale de la création en 6 jours. On a plusieurs passages. Ici, Romains 5, 12. Par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort. Et ainsi, la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Donc ici, si vous lisez ce passage-là avec vos enfants, vous pouvez leur demander de quel homme est-ce qu'il est question ici. Là, il va vous dire Adam, vous allez être tout fiers. Et là, vous voyez, vous pouvez lui montrer à quel point ce passage-là nous montre qu'Adam est important, l'historicité d'Adam est importante pour avoir une théologie cohérente. Parce que si on n'a plus le péché qui entre dans le monde par un seul homme, si on n'a plus une terre qui a environ 6000 ans de vieux, avec au départ un homme, la chute, le péché et la mort qui arrive à cause du péché, entraînant avec elle la souffrance, la maladie, on a soit un Dieu qui a créé la mort, on a la mort avant l'homme. De quoi est-ce qu'on est sauvé? Pourquoi est-ce qu'on est sauvé? En quoi est-ce que le sacrifice de Jésus est si efficace? En Romains 5, 19, je crois, ensuite, il est dit que c'est aussi par un seul qu'on est sauvé. Et là, cette fois-ci, on parle de Jésus, quelques versets plus tard. La position évolutionniste-théiste est un peu difficile à tenir. Ici, pour l'illustrer, on a une illustration de la création. C'est un peu la représentation qu'on peut se faire, bon, peut-être un peu moins caricatural, avec plus de nuances. Quand on lit le récit de la création, c'est l'image qu'on a, un monde parfait, sans mort, sans maladie, sans souffrance, sans péché, tout neuf, que Dieu a dit très bon quand il l'a créé. Par contre, si on croit qu'avant Adam, encore là, il y a plusieurs théories, là. Il y a des gens qui croient en un Adam historique qui aurait été insufflé par Dieu, mais qu'avant il y aurait eu évolution ou qu'avant il y aurait eu... il y a la théorie restitutionniste qui croit qu'il y a eu des millions d'années avant, puis qu'ensuite il y a eu une reconstruction par Dieu. Mais si c'est le cas, et si le registre fossile qu'on a sous nos pieds, hein, en dessous de nous, je commence tout de suite un peu les sciences, en dessous de nous, on a des strates de roche, et la théorie créationniste, celle qui était là avant la théorie, avant qu'on popularise la théorie évolutionniste il y a 200 ans environ, nous dit que interprète ces strates de roche-là par le déluge. Hein, on sait que ça prend de l'eau pour que les organismes se sédimentent. Et il y a des expériences de sédimentation rapide qui ont été faites en quelques semaines avec beaucoup d'eau en mouvement. On a les différentes particules de terre et de roches qui sont dans l'eau qui vont se déposer selon leur grosseur. Et ça fait des strates telles qu'on en voit dans une falaise, par exemple dans le Grand Canyon. On a des strates différentes. À l'intérieur, on a des fossiles qui sont des organismes qui étaient jadis vivants, qui sont morts maintenant et qui sont sédimentés, qui sont minéralisés, qui sont devenus de la roche, mais sous forme de trilobites, sous forme de feuilles, sous forme de toutes sortes d'organismes vivants. Et la théorie évolutionniste interprète ces strates-là en nous disant que chacune s'est déposée en plusieurs millions d'années. Donc, on a plusieurs millions d'années, puis ensuite de façon chronologique. Donc, les plus hautes sont plus récentes. Les plus vieilles sont plus vieilles et les plus basses sont plus vieilles. Et les organismes, les fossiles qui sont encapsulés dans ces différentes strates-là, sont encapsulés selon leur degré d'évolution. Donc, en bas, on a des trilobites. À un moment donné, on a des dinosaures. Après ça, on ne devrait plus en avoir. Ce n'est pas vraiment ça qui arrive, mais c'est ce qu'on croit. Et éventuellement, on aurait des ossements humains en haut. Si vraiment, en dessous de nous, toutes ces strates rocheuses-là et ces fossiles-là sont là depuis des millions d'années et qu'Adam est arrivé par la suite. Voici l'image qu'on a de la création maintenant. Donc, on a la création que Dieu nous dit être très bonne et en dessous, on a, je m'excuse, j'ai pas pu traduire là, dans le dessin, mais death, la mort, suffering, la souffrance, disease, la maladie. Donc, vous voyez en bas des trilobites, à un moment donné, des dinosaures, en haut, des êtres humains. L'évolution a besoin de mort, d'ailleurs, pour fonctionner. On sait que la théorie de l'évolution nous dit que, il y a évolution parce qu'il y a sélection naturelle. La sélection naturelle, c'est que les individus d'une espèce qui sont moins adaptés, qui n'ont pas acquis les structures qui les avantagent, n'arrivent pas à se reproduire et meurent, tandis que les autres se reproduisent et vivent. Donc, on a besoin de la mort pour qu'il y ait évolution. C'est donc difficile à réconcilier comme théorie la théorie de l'évolution et la théorie de la création divine, où la mort apparaît seulement après la chute. Dernière. Ah non, je veux voir d'autres versets aussi avant. Un autre verset sur la création, Matthieu 19, 4 à 6, c'est de la bouche même de Jésus ici. Donc, encore là, un autre argument intéressant en ce qui concerne l'exactitude de la création. Jésus affirmait que la terre avait été créée en 6 jours. Il affirmait que l'homme et la femme avaient été créés au commencement. Il y a plusieurs mentions de la création dans le discours de Jésus. Et à l'Association de sciences créationnistes, on a 2 DVD intéressants là-dessus, un article en ligne gratuitement aussi. J'ai celui-ci, La Genèse, l'Évangile et la question évolution-création du docteur Émile Silvestru qu'on vend pour 10 $. Et on a une autre conférence de Laurence Tisdall sur Jésus et la Genèse. Et on a aussi un article sur Jésus et la Genèse qui, lui, est disponible sur notre site Internet gratuitement. Donc, ça peut être intéressant à lire ou à regarder avec vos enfants sur la question de ce que Jésus disait de la création. Ici, en Matthieu 19, 4 à 6, on en a un exemple. Il répondit: « N'avez-vous pas lu que le Créateur, au commencement, fit l'homme et la femme? Et il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. » Donc, ici, on a Jésus qui confirme que Dieu a créé l'homme et la femme au commencement et non après des millions d'années, qu'il a tout de suite donner ses directives par rapport au mariage. Et Jésus, en réaffirmant, en redonnant ses instructions sur le mariage, sur les relations hommes-femmes, utilise l'origine de l'homme et de la femme, l'origine de la relation maritale, dans le fond, pour justifier son enseignement. Ici, le commandement sur le sabbat, plutôt en Exode. Dans l'Ancien Testament, cette fois, Exode 31, 15 à 17, on se rappelle que les 10 commandements ont été écrits du doigt même de Dieu sur les tables de la loi. Et qu'est-ce que Dieu nous dit lui aussi quand il donne la loi sur le sabbat? Il la justifie avec une référence à la création. On travaillera 6 jours, mais le septième jour est le sabbat, le jour du repos consacré à l'Éternel. Celui qui fera quelque ouvrage le jour du sabbat sera puni de mort, donc c'était sérieux. Les enfants d'Israël observeront le sabbat en le célébrant, eux et leurs descendants, comme une alliance perpétuelle. Ce sera entre moi et les enfants d'Israël un signe qui devra durer à perpétuité. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux et la terre, et le septième jour, il a cessé son œuvre et s'est reposé. Donc, il est vraiment question ici de 6 journées de 24 heures. Sinon, les enfants d'Israël auraient attendu très longtemps avant de célébrer leur premier sabbat. Dernier petit truc pratique pour développer une bonne connaissance de la Bible avec vos enfants pour rendre ça concret. Oui, c'est pas clair ici. C'est une ligne du temps. Faire une ligne du temps. Il y a différentes possibilités pour faire une ligne du temps. Vous pouvez le faire dans un cartable. Nous, on a décidé, c'est... C'est les petits papiers de couleur, les papiers construction. Ici, c'est dans la chambre de mon fils. on aurait pu aussi utiliser un rouleau de papier craft. Là, ça aurait été moins compliqué, juste le dérouler sur un mur, mais on n'avait pas un mur complet disponible. Puis mon fils ne voulait pas que je déplace ses dessins. Alors, j'ai dû faire des échelles. C'est pour ça que j'ai utilisé du papier construction. Les enfants aiment bien les couleurs aussi. Les miens sont jeunes. Si les vôtres sont plus vieux, ben, vous pouvez utiliser des façons peut-être un peu plus pratiques. Ça peut être fait, comme je vous disais, dans un cartable aussi, si vous n'avez pas un grand mur de disponible. Moi, je voulais qu'ils les aient vraiment toujours sous les yeux, cette ligne du temps, pour vraiment... Ça aide aux enfants à visualiser le plan de Dieu pour l'humanité, à visualiser aussi l'espace de temps de façon concrète, l'espace de temps entre la création, entre le déluge et Jésus, entre Jésus et leur naissance. Là, ils voient, nous, on a une échelle, vous pouvez choisir l'échelle selon ce qui vous convient. Nous, on a une échelle d'un pouce pour 35 ans. Donc, il y a à peu près un pouce entre eux et leurs parents. Ils voient qu'il y a beaucoup plus de pouces entre eux et Jésus. Donc, ça leur donne une idée quand même du temps qui passe. Et ce qui est intéressant avec la ligne du temps, c'est qu'ensuite, vous pouvez l'utiliser pour vos études de l'histoire, pour vos études des sciences. Quand vous étudiez un scientifique, une découverte scientifique, un événement historique, vous allez le placer sur la ligne du temps. Donc, c'est vraiment très instructif pour vos enfants et ça vient s'introduire dans vos autres cours aussi. Si vos enfants sont plus vieux, ils vont avoir une représentation peut-être un peu différente. Ici, c'est la représentation de ma fille. Je lui ai fait illustrer la création. Alors, évidemment, on reconnaît Adam, un mouton et de l'eau. Ici, c'est mon fils qui avait alors 4 ans et demi. On reconnaît Noé avec en haut 7 autres personnes dans l'arche. Donc, c'est le déluge. Des ressources. Pour étudier la Bible, je vous ai déjà parlé du Centre du Livre Chrétien, le CLC, qui est un kiosque dans le salon des exposants présentement. Le site web, vous pouvez commander en ligne, www.clccanada.org. Vous allez trouver des bibles à colorier, bibles audio, livres, musique, films chrétiens. Petit avertissement par contre, le CLC n'est pas une ressource créationniste. Vous allez aussi trouver des livres évolutionnistes au CLC. Donc, toujours développer l'esprit critique, vérifier les sources. Comme je disais, le débat création-évolution et dans l'Église aussi. Il y a des chrétiens qui écrivent des livres qui prônent des millions d'années. Bible Gateway, c'est un nom anglais, mais vous avez des bibles disponibles en ligne dans plusieurs langues, dont le français. Vous avez plusieurs, vous avez le Sommeur, Louis II, je crois que vous avez la Bible en français courant disponible en ligne sur ce site www.biblegateway.com. Ce qui est intéressant, c'est que vous avez une concordance en ligne. Vous avez un engin de recherche. Et vous, si vous voulez faire une recherche par sujet, c'est moins long qu'avec la concordance classique. Cela dit, ça coûte moins cher aussi, c'est disponible gratuitement. Cela dit, si vous aimez la concordance classique, le contact traditionnel avec le papier, il y a des concordances de disponibles au CLC. Un peu plus cher. L'ASCQ, Association de sciences créationnistes du Québec. Je pense que c'est pas mal le site Internet le plus complet sur la création qu'on a en français au Québec. Je vais vous parler d'un autre organisme en français tout à l'heure. Donc, www.creationisme.com. Le but de Laurence Tisdall, quand il a fondé l'ASCQ, c'était justement de fournir des références en français sur la création. Parce qu'il y en a beaucoup, beaucoup en anglais, il n'y en a pas beaucoup en français. Ça, c'est vide. Ah non! J'ai perdu. Ah, j'ai perdu. Je vous avais pris une belle capture d'écran de La première page du site de la SCQ, elle est disparue. Je suis vraiment déçue. Mais bon, c'est pas grave. Quand vous allez sur le site, je voulais juste vous montrer les options. Vous avez, si vous allez dans la section réponses, vous allez avoir un menu avec trois options qui va défiler. Vous allez avoir les FAQ, la foire aux questions, qui est très intéressante. Les liens pour avoir d'autres liens vers d'autres sites créationnistes. Et vous avez des articles, beaucoup, beaucoup d'articles en ligne sur différents sujets. Je vous conseille fortement d'aller lire ces articles-là avec vos enfants. C'est sûr que pour les tout-petits, ben même les tout-petits, des fois, ça peut être intéressant de lui résumer un peu. C'est quand même très illustré. Il y a toujours beaucoup de dessins. Mes enfants, à moi, sont toujours intrigués par les dessins. Ils posent plein de questions. Alors, j'en profite pour vulgariser un petit peu. C'est sûr, il faut que je simplifie un peu les arguments. Dès que vos enfants sont plus vieux, ça peut faire des bonnes lectures. Des fois, on se demande quoi faire lire, entre autres aux petits garçons, là, la petite maison, la prairie, ça les intéresse pas en général. Il y a des études qui ont été faites sur les garçons, les filles. Les filles aiment beaucoup la fiction, puis on a tendance à faire lire beaucoup de fiction hein, dans les écoles publiques. À l'école maison, on est chanceux, on peut choisir nos lectures. Les garçons d'habitude sont moins intéressés par la fiction. Alors, des articles créationnistes, s'ils aiment les sciences un peu, si ça parle de dinosaures, des trucs comme ça peut les intéresser et en même temps, ça développe leur culture scientifique, leur culture créationniste. Donc, c'est très intéressant. Vous avez aussi une section magasinée en ligne où vous pouvez acheter bon, des DVD comme ceux-là. Les gens me demandent des fois, on n'en a pas exprès pour les enfants, mais à partir de 6 ans, je pense que les enfants peuvent être intéressés à les regarder avec leurs parents. En tout cas, les miens, même avant 6 ans, ça les intéresse. Peut-être que c'est la passion des parents qui transparaît, entre autres ceux sur les dinosaures. On a beaucoup, ce sont des conférences. Donc, on a un conférencier qui parle, qui donne des arguments, pas nécessairement pour les jeunes enfants, mais c'est quand même très illustré. Il y a souvent des diapos. Laurence met plus de dessins que moi dans ses diapos et de photos. Donc, on a des photos de dinosaures, on va avoir des photos de toutes sortes de trucs, de strates rocheuses, de falaises, de fossiles. Alors, je pense que ça peut intéresser les enfants quand même. Évidemment, les adolescents, les jeunes du secondaire peuvent facilement comprendre. C'est bien vulgarisé. Donc, on a plusieurs DVD disponibles. Si vous les achetez en ligne, vous pouvez n'importe quand. Évidemment, vous avez les frais de manutention à payer. Présentement, on a un kiosque au Salon des Exposants où vous pouvez les acheter sans avoir à payer les frais de manutention, si jamais ça vous intéresse. On a quelques livres aussi, comme celui-ci qui est superbe. Il est en anglais, par contre, mais très bien illustré sur les dinosaures. Je vais vous en reparler un petit peu plus tantôt. Je vais le mettre ici. On a deux livres en français. On a surtout des DVD, des conférences. Et évidemment, vous pouvez devenir membre aussi si vous avez à cœur le ministère créationniste. Vous pouvez le faire à notre table présentement, vous pouvez le faire en ligne. Si vous avez à cœur de devenir membre, plus on est de membres, plus on a de poids. Vous pouvez soutenir financièrement, c'est sûr, on est un organisme à but non lucratif, donc c'est dommage, mais pour mener des projets à terme, ça prend de l'argent. Donc on fonctionne avec les dons et la vente de matériel. Et si vous avez même des talents à mettre au profit de l'organisme, c'est surtout Laurence présentement qui travaille. On est quelques-uns à essayer de s'impliquer un peu. Plus on a de gens qui s'impliquent, moi entre autres, avant d'être un peu plus connaissante dans le domaine, comme je n'avais pas de formation scientifique, j'étais surtout utilisée pour corriger les articles, traduire des articles aussi à cause de ma formation en littérature. Donc, si jamais ça vous intéresse de vous impliquer. La SCQ est toujours à la recherche de gens. Si vous êtes membre, vous pouvez venir. À chaque année, on a une assemblée officielle des membres. Vous pouvez venir voter. Vous pouvez venir donner des idées, discuter des projets. Est-ce qu'il y avait autre chose dont je voulais discuter sur la SCQ? Non, je crois que c'est tout. On va commencer à parler des sciences, mais on a déjà un petit peu commencé dans le fond. Je veux vous parler de quelques sujets à aborder avec vos enfants. D'abord, la méthode scientifique. Ça fait partie aussi de développer un bon esprit critique. Comprendre comment les affirmations qui nous arrivent, d'où elles viennent, est-ce qu'elles ont été vraiment, est-ce qu'elles sont vraiment scientifiques ou est-ce que ce sont seulement des hypothèses? Alors, des fois, on nous présente des hypothèses comme des conclusions. Dans la méthode scientifique, je vais un petit peu simplifier, là. On a observation, on observe le réel. Ensuite, ça nous amène à nous poser des questions. Ensuite, on émet une hypothèse. Et là, vous pouvez amener, dès qu'ils sont tout petits, vous pouvez amener vos enfants à poser tout plein d'hypothèses, ils vont avoir beaucoup de plaisir à faire ça. Par exemple, est-ce que cet objet-là coule ou est-ce qu'il flotte, celui-ci, celui-là? On émet des hypothèses. Ensuite, vérification. Comment est-ce qu'on pourrait vérifier? Bon, mais là, dans le cas des objets qui coulent ou qui flottent, c'est facile, hein? On fait couler le bain puis on les lance dans l'eau. On peut discuter quand on vérifie. Est-ce qu'il pourrait y avoir une marge d'erreur dans mes résultats? Est-ce que mon expérience, ma vérification est répétable et est-ce qu'elle est réfutable? Par exemple, si j'ai un petit bateau, il flotte. Si je le remplis d'eau, est-ce qu'il flotte encore? Hein? Est-ce qu'il y a certains paramètres à respecter pour que mon expérimentation fonctionne? Et à la fin, conclusion. Si vos enfants sont plus vieux, vous pouvez leur faire noter leurs résultats dans des tableaux, dans des graphiques. C'est très formateur. Et vous pouvez aussi, petits et grands, leur donner des exemples du débat création-évolution avec la méthode scientifique. Donc, vous pouvez, par exemple, leur présenter cette photo qui a été prise. Je sais que vous l'avez pas, votre mari l'a pas prise en 2003 comme moi, mais vous pouvez la trouver sur notre site facilement ou d'autres photos comme ça. Hein, vous tapez fossiles multistrates dans Google, vous allez trouver plein de photos. Il y a plein de fossiles multistrates. On a déjà parlé un peu des strates. Donc, cette photo-là a été prise en Nouvelle-Écosse, un endroit qui s'appelle Joggins, plus précisément Fossils Cliff, parce que c'est une falaise et qu'elle est remplie de fossiles. Et on se rappelle que l'hypothèse devant l'observation de ce fait géologique-là, chez l'évolutionniste, c'est que les strates les plus basses sont plus vieilles et que les plus hautes sont plus récentes et qu'il y a des millions d'années entre celles du bas et celles du haut. L'hypothèse créationniste, c'est qu'avec beaucoup d'eau, notamment un déluge global, qui expliquerait pourquoi on trouve des fossiles et des strates comme ça, même en haut des plus hautes montagnes. On a des sédiments avec l'eau, le mouvement, qui se déposent en formant des strates, et les fossiles qui sont encapsulés dans ces strates-là sont tout simplement des organismes vivants qui ont été noyés ou enterrés dans la boue pendant le déluge. Et là, on a un arbre, on a un tronc d'arbre qui traverse plusieurs strates, ce qu'on appelle un fossile multistrate. Ça, ici, c'est une façon de vérifier que l'hypothèse évolutionniste est difficile à tenir. Les évolutionnistes ont beaucoup de difficultés avec les fossiles multistrates comme ça, parce que pour que mon arbre se sédimente sans que le haut ait le temps de pourrir, je ne peux pas avoir des millions d'années comme ça, là. C'est impossible. Surtout si le bas s'est sédimenté en premier, parce qu'on se rappelle que c'est le bas qui se sédimente en premier. Donc, si j'ai le bas de mon tronc d'arbre qui est sédimenté, l'arbre n'a plus de racines qui le nourrit, il est mort. Jamais on a vu une souche d'arbre, un tronc d'arbre, survivre, se préserver sans pourrir pendant des millions d'années. Premièrement, on n'a jamais vu de millions d'années, donc, c'est quelque chose d'aberrant pour les évolutionnistes. Pour les créationnistes, c'est simple. On a déjà vu des troncs d'arbres, hein, quand il y a beaucoup d'eau, même avec du mouvement. On peut avoir un tronc d'arbre, je ne sais pas quelle hauteur il a exactement, malheureusement, je n'ai pas quelque chose pour. Mais bon, on se doute qu'il y a au moins cette hauteur-là, il est peut-être plus haut aussi. Mais c'est possible des troncs d'arbres qui tiennent quand même à la verticale, dans de l'eau, avec du mouvement. Surtout s'il y a des sédiments qui se déposent autour pour le retenir dans sa position et ensuite il se sédimente lui aussi sous l'effet de l'eau et du mouvement de l'eau. Donc, argument intéressant. Argument créationniste intéressant à partager avec vos enfants. Ce qui m'amène à parler un peu plus des fossiles et de l'âge de la Terre. Donc, quand on parle des fossiles et de l'âge de la Terre, souvent les gens ont l'impression, parce qu'ils lisent des articles de journaux où ils se font dire que il y a un fossile qui a été trouvé, il y avait 67 millions d'années, et là c'est présenté comme ça, bang, comme un fait. Alors les gens ont un peu l'impression que les scientifiques ont un laboratoire avec une machine à dater les roches, on passe la roche, bip, 65 millions d'années. C'est clair comme ça, là. C'est un fait, ils l'ont daté, 65 millions d'années, on n'en parle plus. C'est pas si clair que ça. En fait, on date souvent les roches. Bon, on utilise des méthodes radiométriques parfois, mais ce ne sont pas toutes les roches qui peuvent être datées de cette façon-là. Et les méthodes radiométriques sont pas très fiables et c'est pour ça que les évolutionnistes, d'ailleurs, en rejettent 90%. Donc, il leur reste 10% qui leur donnent des dates à peu près comme ils voudraient. Alors, il garde celle-là. Souvent, pour les roches qu'on ne peut pas dater avec les méthodes radiométriques, on va utiliser un raisonnement circulaire pour dater la roche, c'est-à-dire qu'on va la dater selon le fossile qui est à l'intérieur. Il y a un fossile de trilobite, on a décidé que les trilobites ont 70 millions d'années, la roche a donc 70 millions d'années. Voilà, on a prouvé notre théorie, les trilobites sont morts il y a 70 millions d'années. On fait la même chose évidemment avec les dinosaures. Je vais parler un peu plus tard des dinosaures. Avant, je veux trouver, par contre, je veux parler des fossiles vivants. Les difficultés que rencontrent les évolutionnistes avec cette théorie-là, c'est qu'il y a parfois des fossiles vivants qui réapparaissent. Ils sont vivants. par exemple, le sélacanthe, je ne sais pas si vous avez entendu parler, j'ai malheureusement pas de photo, c'est vraiment un gros poisson, il a l'air vraiment étrange. Ça doit être pour ça que quand les évolutionnistes le trouvaient fossilisé, espèce de gros poisson, deux paires de nageoires, une qui était plus grosse que l'autre. Ah, ça a l'air d'un poisson jurassique, ça. Ça a été éteint en même temps que les dinosaures. Puis ça doit être un chaînon entre les poissons et les êtres vivants qui vivent sur la Terre. Il devait se servir de ces grosses nageoires pour se tirer de l'eau. Et en 1938, on en a trouvé un vivant, bien gigotant, dans un filet de pêche. Alors là, on a plein de scientifiques. Non, 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 ça doit être une erreur. Ça doit pas vraiment être un sélacanthe. Il y a un scientifique qui a fait une chasse tout seul. C'était même pas un créationniste, un évolutionniste, mais il s'est dit, waouh, il y a des sélacanthes encore vivants. Faut que j'en trouve d'autres. Personne ne voulait lui donner des fonds. Il a cherché. En 1950, on en a trouvé d'autres. Et maintenant, sur Internet, vous pouvez trouver des photos de gens qui nagent à côté d'un immense sélacanthe. Il est vivant. Il n'a pas évolué. Il est pareil, pareil, comme dans les fossiles. C'est ce qu'on appelle un fossile vivant. Encore là, comme les fossiles multistrates, ça vient mettre par terre. Ben oui, on a tous évolué en même temps, il y a des millions d'années, en 6 jours. Les dinosaures, même chose avec les dinosaures. De plus en plus, on trouve des évidences que les dinosaures et les êtres humains ont coexisté. Ça fait mal à la théorie de l'évolution. On a trouvé des os avec des tissus mous à l'intérieur, pas sédimentés. On a trouvé des cellules de sang. Et c'est une évolutionniste, j'essaie de me rappeler son nom de famille, Mary Schweitzer, je crois, qui a découvert cet os-là en 2005. Et elle est présentement en train de travailler pour essayer, évidemment, son réflexe à elle, ça a été, mais comment est-ce que ça fait pour se préserver aussi longtemps? Comment ça fait pour se préserver pendant 67 millions d'années? Et la réaction des créationnistes, c'est parce que ça n'a pas 67 millions d'années, tout simplement. Et le livre de Vance Nelson aussi nous montre des œuvres d'art. Je vais essayer de vous montrer le petit dragon de jade chinois. 4000 ans, ici. 4000 ans de vieux. Avant l'invention de la paléontologie, on trouve cet artefact en Chine. C'est un triceratops. Non, le rhinocéros n'a pas une crête comme ça. Il y a une corne, mais elle n'est pas à la même place. Il ressemble vraiment à notre triceratops, là, ici, là. On en a d'autres aussi, là, si vous voulez le feuilleter, il est vraiment intéressant. C'est possible, c'est possible. Oui, justement, le béhémoth et le léviathan, hein, on a donc des œuvres d'art. D'avant la paléontologie, qui représente très bien les dinosaures tels qu'on les reproduit maintenant. Est-ce qu'il me reste du temps? Un petit peu. Tels qu'on les reproduit maintenant avec les fossiles, les ossements qu'on retrouve. Et on a des récits, entre autres, de dragons cracheurs de feu. Et là, quand on voit la description, là, ça a l'air mythologique. Hein? Moi, j'ai longtemps pensé que c'était un personnage, une créature mythique, les dragons du Moyen Âge qui crachaient le feu. Par contre, physiologiquement, la description de ces créatures-là ressemble aux dinosaures qu'on nous décrit présentement en paléontologie. Et même dans la Bible, effectivement, en Job 40, c'est Dieu lui-même, encore une fois, qui répond à Job pour lui prouver sa toute-puissance, pour lui dire, écoute, tu demandes des explications, t'as pas besoin d'explications, je sais ce que je fais, t'étais pas là quand j'ai créé, tu sais pas comment j'ai fait, je suis tout-puissant, je sais ce que je fais. Et là, il se met à énumérer des éléments de sa création dont il semble particulièrement fier. Et en Job 40, il nous parle du béhémoth, Dans certaines versions françaises, on a des traducteurs zélés qui ont traduit par hippopotame, justement. Mais si vous lisez la description, c'est pas un hippopotame. Le traducteur savait pas de quelle créature il s'agissait. Il a essayé de trouver. Dans d'autres traductions. Effectivement. C'est ça, on n'avait pas de mots pour cette créature-là. Donc, il y a des traducteurs qui ont essayé d'en trouver un. Ils ont essayé de voir par quoi je pourrais traduire. Et en Job 41, on a le Léviathan, qui est encore plus intéressant. Moi, j'aime beaucoup le Léviathan. Et qui a été traduit par crocodile dans la version Louis II. Et je vais vous lire une partie de la description de ce crocodile. Ses éternuements font briller la lumière. Ses yeux sont comme les paupières de l'aurore. Des flammes jaillissent de sa bouche. Des étincelles de feu s'en échappent. Une fumée sort de ses narines comme d'un vase qui bout, d'une chaudière ardente. Son souffle allume les charbons. Sa gueule lance la flamme. Crocodile. Un crocodile. Donc, ça ressemble drôlement à un dragon. D'ailleurs, le mot pour dinosaure avant la paléontologie, c'était dragon. Donc, un dinosaure qui crache le feu. Comment est-ce que c'est possible? C'est sûr que ça semble incroyable. Par contre, on a toutes sortes de créatures qu'on peut observer présentement dans la création qui font des choses épatantes quand on y pense. On a le scarabée bombardier, qui peut, avec un gaz mélangé avec l'oxygène, produire une petite flamèche, mais tout petit. Alors, ça fait pas des flammes comme le Léviathan, là, mais si on imagine un immense carabée bombardier, ça peut faire peur. Et on a des raies, toutes sortes de poissons, des anguilles qui font de l'électricité, produisent de l'électricité, électrocutent leur proie. Donc, pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Est-ce que Dieu n'aurait pas créé un dinosaure qui crache du feu? L'ADN, rapidement, j'aime beaucoup expliquer l'ADN à mes enfants en faisant une analogie avec un livre de recettes. Je leur dis que c'est comme un livre de recettes, je leur dis pas que c'est un livre de recettes, je veux qu'ils comprennent qu'ils n'ont pas un livre de recettes quelque part en eux qui se promène, là. Je leur montre, j'aime leur montrer la photo de l'hélice, là, pour qu'il y ait vraiment une vision, en leur disant que c'est tout petit, tout petit, tout petit, mais qu'il y a beaucoup, beaucoup d'informations. Et c'est comme un livre de recettes, c'est-à-dire que dans un livre de recettes, on a une recette pour le pâté chinois, une recette pour le gâteau, une recette pour la salade. Dans l'être humain, on a une recette pour les yeux, une recette pour un nez, une recette pour des cheveux. Il y a des gens qui, dans leur pâté chinois, vont changer certains ingrédients. J'ai déjà fait un pâté chinois végétarien avec des lentilles à la place de la viande hachée, mais j'ai des amis qui trouvent ça étrange, mais c'est encore un pâté chinois. Et le gâteau, on peut en faire aux fraises, on peut en faire au chocolat, ça reste un gâteau. Par contre, le pâté chinois sera jamais un gâteau et le gâteau sera jamais un pâté chinois. De la même façon, on a une variation à l'intérieur des espèces. On peut avoir des yeux bleus, des yeux bruns, des yeux verts, on peut avoir des cheveux de différentes couleurs, des gens qui sont grands, des gens qui sont plus petits, la peau de toutes sortes de couleurs, mais sur un être humain, vous avez toujours les deux yeux, le nez, les cheveux, la bouche, à moins d'un accident ou d'une maladie. Par contre, dans une autre espèce, on a d'autres recettes, des recettes différentes cette fois-ci. Donc, pour le chien, vous avez quatre pattes, vous avez une recette pour la queue, vous avez une recette pour le poil, sur tout le corps. Vous êtes encore là, vous pouvez avoir des variations. Donc, c'est comme si le chien était finalement un livre de recettes de salade et que l'être humain était un livre de recettes de menus principaux. Donc, ça aide les enfants à comprendre la différence entre variations dans la même espèce et les différentes espèces. Et si j'ai une recette, j'ai de l'information, j'ai quelqu'un qui a écrit les recettes. Si j'ai de l'information dans le corps humain, dans le corps animal, j'ai quelqu'un qui a mis cette information-là. Et j'ai besoin d'un système qui comprend l'information. Quand mes enfants cuisinent, il faut maman ou papa pour lire la recette. Sinon, notre gâteau va peut-être contenir plus de sel que de sucre. De la même façon, mon ADN, non seulement est plein d'informations hyper complexes, mais elle a besoin d'un système qui est capable de le comprendre. Et on n'observe pas d'ajout de structure. Je termine rapidement avec des ressources scientifiques. Encore la SCQ, on a plein de DVD, conférences, articles intéressants. Blog de Julien Perrault, je pense que je vous l'ai mis sur vos photocopies. Il y a des articles et des vidéos en ligne disponibles gratuitement. Julien Perrault est l'ancien, peut-être que tu le connais, c'est l'ancien vice-président de la SCQ. Maintenant, il a son propre blog. Origine Création, ils ont un kiosque aujourd'hui dans le Salon des Exposants. Ils ont un site web aussi, www.origine-création.org. Dans leur section librairie ou à leur kiosque aujourd'hui, ils ont ce qu'ils ont d'intéressant, eux, ce sont des livres qui sont des cours. Avec des questions, des réponses, des corrigés. Les 7 sites de l'histoire, je pense qu'ils ne l'ont pas à leur kiosque présentement, mais ils l'ont disponible en ligne. C'est pour 3e à 5e année. Ils ont Les dinosaures, des créatures fascinantes, un livre d'activité pour tous les âges. Et Tout commence avec la Genèse, livre d'activité, 6e année à secondaire 2. Et CMI, Creation Ministries International, c'est un ministère qui est surtout anglais. www.création.com, mais ils ont quelques DVD en français comme ceux d'Émile Silvestru, mais on les a aussi à la SCQ, là, mais bon, ils en ont des différents aussi. Vous allez dans la section Store, vous tapez French DVD dans la fenêtre de recherche, c'est-à-dire là où c'est écrit Search dans le coin supérieur droit, et vous allez avoir quelques DVD en français ou sous-titrés en français. Des fois, c'est juste les sous-titres, là, le conférencier parle en anglais, mais vous avez les sous-titres au moins. Alors, si vos enfants sont plus vieux, ils peuvent lire, puis sinon, ben, vous pouvez leur lire. C'est moins difficile que de traduire instantanément, comme j'essaie de faire des fois avec des ressources en anglais. Est-ce qu'il y a des questions? Oui.
À change, puis que les scientifiques font des nouvelles découvertes, changent de point de vue, que c'est pas quelque chose de stable comme une vérité absolue de la Bible, comme Dieu a créé le monde.
Effectivement.
De quoi il aurait accordé la même valeur, d'éviter cet esprit critique-là, c'est tout. De savoir si la science, justement, il peut avoir des fausses théories, des fausses présuppositions.
Effectivement, effectivement. Je vais le répéter pour l'enregistrement. Commentaire pertinent, selon lequel dans la question de développer l'esprit critique, c'est important de faire remarquer aux enfants que l'être humain est imparfait, finalement, que les scientifiques ne connaissent pas tout, contrairement à Dieu, et que ils font des erreurs, ils font des nouvelles découvertes constamment. Alors, ben, je vous remercie pour votre écoute et je vous souhaite d'être béni dans votre aventure d'école maison et dans votre enseignement créationniste.